France Musique.
En quelques années, elle s'est révélée sur la scène française une voix, un timbre, une diction, une présence, un charisme. Elle a tout cela. Bonjour Marie-Laure Garnier.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois dans la matinale de France Musique.
Merci.
Après des études au Conservatoire supérieur de Paris, vous avez été la révélation classique de la Dami, lauréate de nombreux concours, dont celui de la Mélodie française, Nadia Elili Boulanger, avec votre chère partenaire Célia Onetto Ben Saïd au piano, lauréate aussi des fondations Royaumont et HSBC au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Vous avez aussi remporté en 2019 le prix Voix des Outre-mer, car vous êtes originaire de Guyane, on va évoquer votre parcours. Mais d'abord, l'actualité. Mercredi, vous serez en streaming à l'Auditorium du Louvre avec le Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takatch. C'est un concert d'ailleurs qui sera enregistré par France Musique. Se produire en public pour les seules caméras, pour les seuls micros. Comment vous appréhendez cet exercice, ce concert enregistrement qui est très répandu en ce moment?
Eh bien, je dirais que, à défaut de pouvoir se produire en public, c'est une autre façon de vivre de son art, on va dire, en tout cas momentanément. C'est difficile en l'occurrence d'être sans public, dans la mesure où le public contribue réellement au spectacle, au concert, il partage avec nous une certaine énergie, on voit les réactions, on voit l'émerveillement ou alors le désintérêt parfois pour certains.
C'est vrai, parfois vous voyez le désintérêt dans les
regards. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé de voir des gens dont la musique
quand ils dorment. Ouais. Hein.
Ça peut arriver. Malheureusement, on est bien triste quand ça arrive, mais voilà.
Mais c'est mieux quand même quand il y a du public.
Exactement.
Là, le fait que ce soit en direct, ça change quelque chose?
Eh bien, le direct, c'est du stress, parce qu'on n'a pas le droit de recommencer, et ce sera probablement diffusé ultérieurement. Donc du coup, on laisse une trace.
Ce sera diffusé sur France Musique ultérieurement, c'est sûr et certain.
C'est le jeu, il faut jouer le jeu, mais en tout cas, c'est surtout une belle occasion de faire de la musique ensemble.
Donc c'est pas comme le disque, c'est pas comme l'enregistrement de disque. Il commence à y avoir plusieurs disques où Marie-Laure Garnier apparaît, intervient, chante. C'est quoi votre rapport à l'enregistrement?
Alors, le premier disque auquel j'ai participé, c'était donc celui de la fondation de l'Académie Orsay Royaumont, avec Célia Onetto Ben Saïd, ma pianiste. On est intervenu très partiellement dans ce disque, et c'était déjà une occasion de se frotter un peu à cet exercice qui est très exigeant. Le temps est compté, on peut pas refaire tant de fois qu'on le souhaite. Il y a la fatigue qui est en jeu, et puis faut vraiment être très très précis dans nos choix musicaux, dans nos choix artistiques. Et voilà, donc c'est un exercice que j'ai eu le droit de faire à plusieurs reprises cette année. Et voilà.
Le dernier disque sorti, c'est Alexandre Dumas et la musique. On en avait déjà parlé avec Karine Dea ici. Voici qui chantait un compositeur inconnu de moi. En tout cas, c'est Henri Robert.
Au jardin amoureux, au jardin amoureux.
Mais elle est très jolie, cette musique d'Henri Reber, Le Jardin.
Tout à fait.
Texte d'Alexandre Dumas, puisque c'est extrait de ce disque Alexandre Dumas et la musique. Marie-Laure Garnier, notre invitée ce matin avec Alphonse Semain. C'est une œuvre que vous avez découverte, j'imagine, pour ce disque. Il y a un plaisir à défricher des nouvelles partitions comme ça?
Tout à fait. C'est toujours très intéressant de découvrir du nouveau répertoire.
Défricher et déchiffrer, les deux.
Oui, les deux, effectivement. Et de se projeter, en fait. C'est surtout ça, parce qu'on a eu un nombre de partitions assez importantes. Karine et Alphonse avaient déjà préparé, exactement. Karine Day et Alphonse Semain avaient déjà un peu préparé le terrain pour Kelly et moi, et nous avons dû choisir chacun les mélodies qui nous intéressaient, qui nous touchaient et qu'on avait envie de défendre.
Kelly, c'est le ténor, hein.
Exactement.
Qui s'appelle
Kelly Bochet.
Voilà, Kelly Bochet. Marie-Laure Garnier, quand je regarde les concerts que vous faites, les disques que vous avez déjà enregistrés, il y a beaucoup de leads, de leaders, de mélodies, pas encore d'opéra, même si vous êtes produite déjà, bien sûr, sur scène, notamment au Capitole de Toulouse. Votre cœur penche quand même davantage vers ça, et notamment avec ce duo avec Célia Onetto Ben Saïd, franchement.
Alors, en fait, je vais vous faire une petite confidence.
Allez-y.
Avant d'être chanteuse, j'étais flûtiste. Et donc, j'avais toujours rêvé d'être chambriste. Et quand j'ai décidé de chanter, j'ai vraiment suivi ce désir de faire de la musique de chambre en petite formation. Et avec Célia, on s'est vraiment trouvés. Et pour le coup, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. Et on a à cœur justement de développer cette formation et de la défendre aussi auprès des programmateurs des festivals.
Tout à l'heure, vous avez dit « ma pianiste ». C'est-à-dire que quand vous êtes avec un autre pianiste, même Alphonse Semain, vous êtes moins à l'aise?
C'est une partenaire privilégiée, dirons-nous. Ce qui ne m'empêche pas de chanter avec d'autres pianistes, comme ça a déjà été le cas de nombreuses fois.
Vous venez de le dire, Marie-Laure Garnier, vous avez d'abord été flûtiste. À quel moment vous avez trouvé votre voix VOIX, que vous avez vu que vous pouviez chanter, que vous aviez plaisir à chanter, que ça pouvait être même être votre vie?
Alors, bien que je chante en fait depuis que je suis toute petite.
À Cayenne?
En Guyane, à Kourou, à l'école de musique de Kourou. J'ai commencé par chanter des chants traditionnels avec les percussions traditionnelles. Et puis, quand j'ai intégré le conservatoire de Paris à l'âge de 14 ans, j'ai fait du chant à la maîtrise de Paris. Mais ce n'était toujours pas un projet de faire du chant de façon professionnelle. Et c'est en quittant la maîtrise de Paris que mon professeur de l'époque, Sophie Geoffroy de Chaume, m'a aiguillée en quelque sorte vers le conservatoire supérieur en me disant « Écoute, tu as du potentiel, il faudrait que tu travailles. » Et c'est vraiment en rentrant au CNSM que j'ai envisagé cette voie. Et je dois dire que je ne le regrette absolument pas parce que c'est une voix extrêmement épanouissante et enrichissante.
Une voix dans tous les sens du terme, avec des professeurs marquants au Conservatoire supérieur de Paris qui vous ont révélé artistiquement, mais aussi humainement.
Exactement, vous lisez dans mes pensées, je n'aurais pas mieux dit.
Ah bon?
Pour le coup, j'ai eu la chance de croiser de très bons professeurs, autant sur le plan technique que sur le plan du développement personnel, c'est-à-dire que envisager une carrière, ce n'est pas uniquement envisager une voie, mais un mode de vie, et puis des choses à faire en termes d'émancipation, de rencontrer des agents.
Donc on apprend ça aussi au Conservatoire supérieur de Paris. On va fêter les 30 ans du Conservatoire à la Villette. On sera avec Émilie Delorme lundi, la nouvelle directrice. C'est quelque chose que l'on apprend aujourd'hui dans les conservatoires supérieurs.
Je dois dire que de plus en plus, en tout cas, les ponts sont faits entre le côté académique et le monde professionnel.
Marie-Laure Garnier, je voudrais qu'on remonte un tout petit peu le fil. Donc il y a cette enfance en Guyane, vous arrivez à Paris à 14 ans. Vous avez remporté le concours des voix d'outre-mer. C'est important ce concours dont s'occupe Fabrice Di Falco pour vous?
Tout à fait. Alors du coup, je suis la première lauréate de ce concours et je dois dire que je suis très honorée d'avoir remporté ce prix. Et maintenant, j'ai la chance d'être la marraine du concours en Guyane. Et j'étais très récemment en
C'est
Guyane.
En ce moment, hein.
Exactement. J'étais très récemment en Guyane pour la finale régionale et j'ai pu participer au masterclass et accompagner les candidats finalistes à leur préparation.
Aujourd'hui, à quoi ressemblent les structures musicales en Outre-mer? Alors, c'est très différent d'un territoire à l'autre, mais on en avait parlé en début d'année avec Fabrice Di Falco ici. Moi, j'étais étonné d'apprendre qu'il y a des territoires d'Outre-mer, donc des territoires de la nation française qui n'ont pas de conservatoire, accessoirement qui n'ont pas la diffusion de France Musique en FM.
Tout à fait. Alors,
ou pas accessoirement d'ailleurs.
En Guyane, il y a un conservatoire, il y a des écoles de musique également. À La Réunion aussi, il y a un conservatoire, mais tous les départements ne sont pas dotés d'équipements et d'institutions comme celle-ci. Malheureusement, c'est très regrettable, ce qui n'empêche pas en fait aux structures de se monter. Il y a des associations musicales, il y a de très bons et très beaux artistes, notamment aux Antilles, qui font du très très bon travail. Maintenant, j'ai envie de dire, ça ne suffira pas de mettre des conservatoires dans tous les départements d'outre-mer. C'est une ouverture, c'est une porte. Mais après, il faut que ça se développe localement en termes de contexte, qu'il y ait des concerts avec des chanteurs lyriques locaux, parce qu'il y en a des chanteurs lyriques ultramarins qui ont déjà fait carrière, qui ont chanté dans des chœurs, etc. Et puis, il faut aussi que voilà, ça se développe, qu'il y ait des concerts, des productions, etc.
Et d'ailleurs, vous serez en concert tout prochainement, puisque on peut quand même nous écouter sur francemusique.fr en Outre-mer, aux Antilles par exemple, et on salue nos auditeurs antillais, à défaut de diffusion hertienne. Au festival Philao, c'est les 18, 19 et 20 décembre, et puis vous serez chez vous, en Guyane, fin janvier, du 25 au 31 janvier, dans les deux cas, avec Célia Oneto Ben Saïd, votre pianiste, et vous voici toutes les deux. C'était sur la scène du festival d'Aix, l'été dernier.
Oh,
enregistré par France Musique à Aix-en-Provence, au festival d'Aix qui était numérique. Cet été, l'été dernier, l'une des 5 mélodies plus 37 de Sibelius. Allez, je me lance. Flickan comme Ifran Sin als Links Mote. J'ai pris un cours accéléré en 3 minutes grâce à vous, Marie-Laure Garnier. Ce qui veut dire, vous le savez, la jeune fille rentre à la maison après son rendez-vous amoureux. Ouais. Marie-Laure Garnier, notre invitée ce matin avec Célia Onetto Ben Saïd. C'est difficile à chanter le finlandais?
Ça se travaille.
Très belle musique en tout cas.
Oui, c'est vrai.
L'apprentissage des langues, ça a été quelque chose de... d'assez relativement simple pour vous dans l'apprentissage vocal.
Alors,
la prononciation à des
la prononciation de pour le coup j'ai eu la chance d'avoir une coach pendant le confinement, donc ça laissait du temps. On n'était pas trop on
effet
était pas
positif
trop
du confinement.
Voilà, exactement. Et par contre Sibelius, c'est très très agréable à chanter, c'est très vocal.
Cette période, d'ailleurs, parlons-en maintenant, est-ce que ça a été, vous l'avez vécu comme un coup d'arrêt un peu brutal dans votre carrière? Est-ce que ça vous a ébranlé?
Aussi bien le premier que le deuxième confinement, je dois dire. C'est une grosse déception quand on est en production et qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, on nous apprend qu'il faudra rentrer à la maison. Heureusement, les productions ont pu être sauvées et reportées ultérieurement, mais quand même, ça fait quelque chose de se dire qu'on n'ira pas au bout des projets et puis que pendant un certain temps, on sera un peu bloqué. Moi, ça m'a beaucoup touchée, je dois dire.
Quelle production lyrique, par exemple?
Alors, au mois de mars, c'était Platé, au Capitole de Toulouse, avec les concerts spirituels. Et très récemment, au Capitole, c'était le viol de Lucrèce.
Vous serez au Capitole. Tout va bien, touchons du bois, j'en trouve pas. En juin prochain, ce sera Electra de Richard Strauss avec une mise en scène de Michel Faux, de l'opéra. D'ailleurs, vous en avez fait déjà, du Wagner d'ailleurs, la Valkyrie.
Tout à fait, oui. J'ai fait mes débuts au Capitole de Toulouse dans la Valkyrie.
Vous avez un plaisir à jouer?
Énorme. Vraiment, depuis que je suis toute petite, j'aime bien jouer la comédie, je dois dire. Je me suis souvenue d'ailleurs très récemment quand même que j'avais chanté ma première comédie musicale à moins de 10 ans, je crois. Et j'avais déjà pris beaucoup de plaisir et aujourd'hui, je dois dire que c'est un plaisir immense que d'être sur scène, de chanter, d'incarner des personnages, de partager la scène avec d'autres artistes. J'ai un rapport particulier avec l'orchestre. C'est quelque chose qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. Et voilà, j'aime être sur scène. J'aime chanter et jouer.
Vous aimez le monde de l'opéra? Est-ce qu'il est en train de changer depuis quelques années que vous y mettez les pieds?
Eh bien, je dois dire que...
Il est dur parfois.
Il est dur parfois, effectivement. Je trouve que c'est à la fois un monde de beauté, pour le coup, par rapport au lieu, par rapport aux œuvres qu'on y chante, par rapport aux personnes que l'on rencontre. Et en même temps, bah, on est quand même confronté à des choses parfois un peu dures.
Par exemple, vous aviez témoigné en septembre dans la lettre du musicien en disant que on ne tolère plus les rondeurs à l'opéra. Je veux bien entendre que je n'ai pas le physique du personnage, mais je veux qu'on me donne une raison valable. Dire vous êtes trop gros, ce n'est pas un argument. Dans ce cas, il faut avoir 16 ans pour jouer l'une des jeunes filles de Così fan tutte. C'est des choses que vous avez pu entendre, ça, Marie-Laure Garnier?
Alors, ce sont des choses que j'ai entendues, effectivement, pas forcément dans l'opéra, mais venant de metteurs en scène. Sortant d'un concours, s'entendre dire bah vous ne pourriez pas chanter tel rôle parce que vous êtes trop ronde, ou alors entendre dire à une collègue vous avez un très beau visage mais il faudra penser à perdre du poids. Ce sont des choses que l'on entend.
Et qu'est-ce qu'on répond?
Alors à mon avis, quand vous entendez ça, vous êtes sidéré et vous ne répondez rien, parce que la société répond en quelque sorte à des critères de beauté qui ne sont à mon avis pas les bons, puisque si on regarde en France, de mémoire, la taille moyenne d'une femme c'est un 42 et non pas un 38 ou un 36. Si on regarde les grandes chanteuses Caballé, Jessie Norman, elles ont fait carrière, on a reconnu leur talent, leur voix, et pourtant elles avaient leur physique. Donc, il me semble vraiment que cette question du physique, elle est pas bien placée, et que on n'a pas besoin d'être mince à tout prix, d'être très mince même, j'ai envie de dire, pour être belle, pour être sensuelle et pour chanter correctement son rôle. avant tout, c'est du théâtre. On n'est pas au cinéma. Donc voilà, pour moi, c'est un critère qui n'est pas ajusté.
Extrait des Chants de l'âme d'Olivier Greff avec Marie-Laure Garnier, notre invitée ce matin. Et Philippe Attat, c'est un disque qui, d'ailleurs bravo, a remporté un Choc Classica cette année, là c'est tout récent. Olivier Greff disparu il y a 20 ans, vous chantez aussi beaucoup de musique d'aujourd'hui, vous chanterez Edith Cannacisi en mars par exemple, ici ce très beau disque consacré à la musique d'Olivier Greff.
Tout à fait, c'est une musique que je pratique depuis le début. J'y trouve un certain plaisir de curiosité, d'originalité, de comprendre un peu le discours des compositeurs, voilà les textes. Voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup. Pour le coup, je fais pas de différence entre la musique contemporaine et le reste de la musique. Voilà, c'est un répertoire que je défends au même titre que les autres.
On parlait de découvrir, de défricher, déchiffrer la musique, par exemple, d'Henri Rebert dans le disque Alexandre Dumas à la musique. Créer, il y a une excitation, j'imagine, particulière. Vous l'avez déjà fait.
Oui, exactement.
On est la première à chanter ça.
Exactement. À la fois, il y a une certaine pression de pouvoir rendre au compositeur ce qu'il a voulu faire passer dans sa musique. Et en même temps, une certaine liberté de n'avoir aucune référence et de pouvoir vraiment mettre sa patte et s'approprier cette œuvre comme on le souhaite.
Marie-Laure Garnier, vous serez donc le 9 décembre, la semaine prochaine, sans public, mais en streaming, en direct de l'Auditorium du Louvre avec le Secession Orchestra de Clément Mao-Takacs dans un programme où il y a Puccini, il y a beaucoup de Puccini, vous chantez beaucoup de Puccini, c'est un concert qu'on pourra écouter un peu plus tard sur France Musique car il sera enregistré par nos micros. Vous serez le 17 décembre également, cette fois avec du public, normalement, à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, toujours avec Clément Mao-Takacs et son Secession Orchestra. Là encore, dites donc, Puccini, c'est votre compositeur de chœur lyrique.
Il en fait partie, évidemment. J'ai eu la chance de chanter il y a quelques années le rôle de Tosca. Et très bientôt, donc, je chanterai des extraits de Manon Lescaut. C'est une vocalité, une écriture qui me va très très bien et que j'ai très envie de défendre.
En 5 secondes, un rôle que vous n'avez pas chanté, dont vous rêvez?
Un rôle que je n'ai pas chanté, enfin la liste est longue en l'occurrence.
Comme ça qui vous vient.
Brunhilde.
Eh ben voilà, on revient à Wagner, on est en plein dedans en ce moment avec l'enregistrement du Ring qui finit dimanche ici à la Maison de la Radio. Merci beaucoup Marie-Laure Garnier.
Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.